Bonjour et bienvenue pour un nouvel épisode de Mocas. Donc aujourd'hui on est le 19 août et je suis allé me promener. Je suis allé me promener au canyon de Prévert, c'est en Curienne dans le massif des Vosges. Donc bah, c'est un canyon. Il y a des gouilles. Alors en fait une gouille en savoyard c'est genre t'as la rivière et puis t'as un puits d'eau, un trou d'eau. Et puis bah voilà, t'as des profondeurs, tu peux te baigner dedans. Et du coup là, vu que c'est un canyon, bah t'as les petites falaises à côté, donc je crois monter jusqu'à 15-20 mètres, puis tu peux sauter. C'est super stylé. T'as les toboggans aussi, des toboggans naturels. Enfin bref, tu fais un peu genre cascade. Voilà, c'était super joli. J'ai adoré cet endroit. Donc si vous connaissez pas là et que vous habitez dans la région, je vous conseille d'y aller. Moi j'ai bien aimé. En plus, en soi, tu te gares en Curienne, enfin à Curienne, pardon. Et bah, en une demi-heure de marche, tu peux y être. C'est pas très très compliqué. Si tu préfères randonner, tu peux partir de Saint-Jean-d'Arvey et puis y aller tout par la rando. Qui en 2 heures, c'est pas mal. Voilà. Donc là aujourd'hui, ça fait un mois que je n'ai pas sorti d'épisode, quelque chose comme ça, ouais, le dernier. Alors bah, ça s'explique assez facilement, c'est que bon en gros, je suis plutôt heureux ces temps-ci. Et du coup, je fais plein de choses de mes week-ends, des choses comme ça, et je prends pas forcément énormément de temps pour me retrouver moi. Donc là, j'ai décidé de me reprendre un week-end et puis de refaire un petit épisode de podcast. Donc voilà. Donc justement, en parlant de se retrouver soi, ça colle bien avec le sujet, parce qu'on va parler de burn-out. Alors, en fait, ça, c'est un épisode qui était trop lourd. Parce qu'en fait, je veux faire un plus gros épisode qui va sortir, qui demande un peu plus de réflexion, donc il sortira pas tout de suite, tout de suite. Mais je voulais en parler, mais ça aurait été beaucoup trop dense. Alors du coup, j'en fais un épisode séparé. Donc du coup, je vais vous parler de burn-out, mais je vais surtout vous parler d'une personne que j'ai rencontrée qui m'a permis de me rendre compte que je faisais un burn-out. Donc ça, c'est une personne, elle a 50 ans, enfin elle va sur ses 50 ans, elle a pas tout à fait 50 ans. Et elle a monté une boîte, elle a eu plusieurs centaines d'employés, enfin ça a cartonné, elle a monté plusieurs boîtes. Puis voilà, puis un jour, bah, il a fait burn-out. Et puis quand il m'en parlait, bah, je me suis reconnu dans ce qu'il me disait. Enfin, je me suis rendu compte que, ah ouais, bah, peut-être que moi aussi j'avais droit dans le burn-out. Donc déjà, pour commencer, qu'est-ce que le burn-out? Alors honnêtement, j'en sais rien. Je me suis pas plus intéressé au sujet que ça, plus documenté que ça, mais en gros, on sait que c'est par exemple quelqu'un qui fait overdose du travail, on va dire. Moi, je vais vous raconter comment je vois le burn-out, mais comment je le vois, c'est ma définition des choses et je dis absolument pas que j'ai raison. C'est comment moi j'ai compris, enfin moi ce que j'ai compris en discutant avec cette personne. Donc le burn-out, il peut être pour moi, il peut être du travail ou d'autres choses. Et pour moi, en fait, le burn-out, c'est quand tu perds un repère. Tu perds un repère. Ça fait une belle allitération, ça. Pardon, je cesse les digressions. Oui, donc pour moi, c'est quand tu accordes énormément d'importance à quelque chose et bah, du jour au lendemain, ça s'effondre. Et quand tes repères, ils s'effondrent en tant qu'humain, bah forcément, tu perds tes repères. Je suis désolé de répéter ça. Mais ouais, c'est une partie de toi qui s'en va, quoi, qui meurt. Du coup, bah, ça passe par la déconstruction, reconstruction et tout ça, et ça demande énormément de travail personnel. Donc, si vous n'êtes pas du tout d'accord avec ça, sur la définition un peu du burn-out, parce que pour moi, il peut être du travail, quoi, que les gens s'investissent dans le travail, mais ça peut être aussi familial, genre quand les gens s'investissent trop dans la famille. Par exemple, une femme aimante, on va dire, qui s'occupe bien de ses enfants et tout, bah, peut-être que le jour où ses enfants partent, c'est peut-être son monde s'écroule et ça passe par un petit burn-out, on va dire. Enfin voilà. Si c'est possible que ma définition soit à discuter, hein, soit discutable et à discuter. En tout cas, je veux pas vous parler de ce que c'est le burn-out, je peux trop faire ça. Par contre, je veux vous expliquer en quoi moi je me dirigeais vers le burn-out. Alors il y a trois choses. Évidemment, j'en ai perdu, donc bah, on va voir ce qui me revient au fur et à mesure de l'esprit. Peut-être que je n'arriverai pas à ressortir les trois. Moi, je vous ai déjà dit que dans l'épisode précédent là sur l'école, que pour moi l'école, bah, j'ai travaillé un peu plus que les autres, on va dire, parce que j'étais en difficulté scolaire et en rentrant des cours, bah, je retravaillais, je faisais des exercices en plus, et puis bah, j'ai réussi à rattraper mon retard. Et je me suis remis à niveau par rapport aux autres. Mais ce que j'ai oublié de dire aussi, c'est que je travaillais. Et je travaillais en dehors des cours. Enfin, mes parents, ils pouvaient pas me payer l'école. Du coup, bah, c'est moi qui travaillais pour me payer. Donc, je travaille depuis que j'ai 16 ans. Ouais, je travaillais à Carrefour, choses comme ça. Et bah, les week-ends, les vacances scolaires et tout ça, bah, je travaillais. Et puis, du coup, bah, pour moi, le travail, ça a toujours été un impact. Pour moi, c'est une valeur importante, le travail. C'est vraiment une valeur importante. Donc voilà, j'ai toujours accordé un petit peu de l'importance au travail. Et je me rappelle plus pourquoi je voulais parler de ça. Ah si, j'ai accordé toujours beaucoup d'importance au travail. Donc déjà, on va dire que j'avais déjà un terrain glissant, ou plutôt à disposition pour qui préparait le burn-out. Je voulais dire que quand tu travailles beaucoup, enfin quand quelque chose a beaucoup d'importance pour toi, tu prends plus le temps d'apprécier. Enfin, non, je suis désolé, je vais pas commencer avec cet argument, je vais recommencer. Je suis désolé, c'est un peu cafouillis. Ouais, alors, en quoi j'avais une pensée de merde quand je travaillais, enfin, à l'époque où j'étais encore en couple, j'avais une sacrée pensée de merde et j'essayais vraiment de me l'enlever de l'esprit, de cette façon de penser, mais bon. En gros, quand je travaillais et puis que ça se mettait à plus aller au travail, à plus aller correctement au travail, enfin, qu'il y avait des choses qui allaient plus très bien, moi, je me disais, ouais, c'est pas grave. Enfin, je suis avec, j'ai une copine, j'ai des amis, gna gna, ça se passe bien. Il n'y a pas de souci. Et puis quand ça allait plus, genre, enfin quand ça battait de l'aile, avec cool, je disais, ouais, c'est pas grave, je suis bon dans mon travail, je suis plutôt bon, je me plais, je m'en sortirai toujours. Enfin voilà. En gros, il y avait une espèce de toujours de fuite en vers l'avant. Enfin, je sais pas comment dire, mais c'est en gros quand quelque chose de me commençait à tourner mal, et ben je fuyais pour m'investir dans autre chose, et tac tac, et puis je faisais comme ça un peu le yo-yo. J'ai cette pensée de merde en me disant, ouais, de toute façon je m'en fous, moi je suis comme ça, moi il y a ça qui me plaît, moi je suis bon à faire ça. Enfin bref, et je crois que c'est pas une bonne façon de faire. Enfin voilà, c'est ce genre de pensée là, c'est pour moi c'est vraiment de mettre, ça favorise vraiment le burn-out. Et la ça, je suis vraiment désolé. J'avais les pensées, mais elles me fuient au fur et à mesure. Je voulais aussi dire que le burn-out, il est, voilà, il est quand un de tes repères, enfin pour moi, il démarre quand un de tes repères s'effondre. Bah, par exemple, c'est pas forcément parce que tu travailles trop, tu as monté ta boîte et puis elle s'est écroulée. C'est aussi des mecs, ils ont travaillé. Je sais pas, en fait, je prends l'exemple de France Télécom parce qu'il y a eu pas mal de suicides. Mais il y a eu France Télécom, c'était une société d'État. Puis il y a des gens qui ont travaillé, bah, je sais pas, pendant 20 ans dans une entreprise, qui se sont investis dedans, sans forcément être patron, hein, genre juste cadre ou employé. Et bah, ils s'investissent dedans, ils sont dans une boîte où il y a des valeurs et tout. Et puis quand ça a été racheté, ça a été privatisé. Et ben, c'est tout ça, tout l'environnement qu'ils connaissaient, dans lequel ils avaient leur habitude. Enfin, ils avaient tout bien, bah c'est parti pour aller dans un autre domaine, un autre milieu qui ne leur correspond plus. Et puis bah ça peut mener à des tentatives de suicide, enfin ce qu'on appelle le burn-out, la maladie. Donc voilà, ça c'est quand ton monde s'écroule. Et moi ça m'a un petit peu arrivé, parce que genre dans la boîte où j'étais, en moins d'un an, ils ont perdu plus de 50% de la R&D, dont moi. La R&D, c'est recherche et développement. Ouais, dont moi, parce que bah voilà, la boîte elle s'est fait racheter, et puis des valeurs qu'il y avait ont disparu, et j'ai connu ça. Bah, j'ai de la chance, c'est ma première boîte, mais donc du coup je me suis pas investi pendant 15 ans dedans, mais enfin j'ai vu ce que c'était, et c'est pas facile à vivre, hein, quand tu vis un rachat et qu'il y a un changement au niveau de la dans la direction. Ils veulent que les choses aillent dans une direction qui est... Enfin voilà, bah, du coup les gens, enfin moi je suis parti, la moitié de la R&D est partie en moins d'un an, mais voilà. peux comprendre le désarroi de certaines personnes qui se retrouvent. Moi, j'avais investi que 1 an et demi de ma vie, on va dire 2 ans de ma vie là-dedans, mais face à des gens qui ont investi 20 ans de leur vie, je peux comprendre la détresse. Donc cette personne là que je vous ai dit que j'ai rencontrée, elle m'a appris une chose, c'est elle m'a appris un petit peu à lâcher prise, à ne plus être dans le contrôle. Parce que quand t'es dans le contrôle, en fait, moi je suis quelqu'un de très réfléchi et j'aime bien savoir les choses, comment elles vont, enfin dans quel cadre ça va être, vers où ça va, sans savoir où ça arrive exactement, mais enfin voilà. Maîtriser plus ou moins les choses. Et ça, pour moi, c'est vraiment aussi quelque chose qui favorise l'arrivée du burn-out. Parce que non, en fait, en informatique, on a une méthodologie qui s'appelle, enfin, une méthode de gestion de projet qui s'appelle les méthodes agiles. Et en fait, en méthode agile, on t'apprend justement à t'adapter, à être agile. Et non pas avoir une méthode de gestion de projet traditionnelle où faut tout maîtriser de A à Z. Et puis, dès qu'il y a quelque chose qui va pas, ça t'occupe le cerveau, ça te bouffe, quoi. Faut apprendre à lâcher le contrôle, et c'est-à-dire quand il y a des choses qui arrivent, des événements qui arrivent, mais juste vivre avec, s'adapter, enfin, ça fait partie de la vie, et il faut s'adapter, enfin, ça fait partie intégrante de la vie, et tu les prends, et tu t'en sers comme tremplin pour autre chose, tu t'adaptes, quoi. En fait, c'est l'évolution, quoi, on s'adapte. Évoluer. Donc c'est le deuxième point, c'est lâcher le contrôle, parce que quand t'es trop dans le contrôle, que tu te dis ok c'est un business plan, ça va se passer comme ça, alors faudra faire ça avant, sinon ça marche pas, tac tac, enfin voilà, que tu commences à, déjà ça te prend énormément de temps de cerveau pour établir ce plan beaucoup à l'avance, qui en plus va énormément changer, parce qu'il va y avoir des aléas de la vie qui font que ça va être difficile, pourra pas avoir ce financement, enfin voilà, il y a beaucoup de choses qui peuvent arriver et qui vont te poser du tracas pour rien parce que ça va tu t'es posé beaucoup de tracas pour se faire ce plan, ça va te faire encore plus de tracas parce que ça modifie tes plans, enfin voilà, apprendre à lâcher le contrôle vraiment, mais que ça soit dans ta vie quotidienne et tout, ne plus garder le contrôle et accepter l'imprévu, quoi, vraiment. Ça c'était le deuxième point, et ça va un peu avec le troisième point, où le troisième point, bah en fait, moi, je pense, vraiment moi, une des raisons du burn-out, quand tu t'investis à fond dans quelque chose, donc je dis que ça pouvait pas être que le travail, mais parce que généralement, les gens, ils s'investissent dans le travail, ils fuient parce que la maison ça va pas, machin, ils préfèrent, enfin, il y a de la souffrance, quoi, et donc ils préfèrent se réfugier dans le travail, ou parce qu'ils sont seuls, ou parce que, enfin, voilà. Bref, mais ça peut être d'autres choses. Ça peut être donc comme je l'ai dit au début, hein, ça peut être une femme au foyer ou un père au foyer ou quelqu'un qui est à fond dans un sport et puis le sport il se fait une blessure, il pourra plus jamais le faire. Enfin, voilà, moi j'ai dit que pour moi le burn-out c'était quand quelque chose dans lequel tu t'étais beaucoup investi, un de tes piliers qui te fait toi s'effondre. Et quand t'es comme ça, que t'as le contrôle énormément sur un de ces piliers. Tu vas plus prendre le temps de vivre l'instant présent, on va dire, de vivre tes émotions. Par exemple, ton enfant, il va te demander, je prends l'exemple, ton fils va jouer, tu vas dire oh non, ou alors tu vas y aller, j'ai pas envie, j'ai autre chose à faire. Ou alors tu vas y aller, mais tu vas pas avoir tes pensées qui sont totalement là. Tu vas pas prendre le temps de vivre l'instant avec les personnes qui t'entourent. On appelle ça la méditation pleine conscience, le fait de vivre l'instant présent, de ralentir les choses. Pour moi, le burn-out, une des choses qui favorise cette arrivée, c'est quand justement ton cerveau, il est là, il pense en arrière-plan. Si tu peux pas l'empêcher, la gamberge, je crois que ça s'appelle. En fait, que ton cerveau, il gamberge, il a la gamberge. Voilà, il y a un truc qui tracasse, t'es dans le contrôle, il y a un truc qui tracasse, et ça va te tracasser à chaque instant de ta vie, de ta journée, et même quand t'es autre chose avec un truc que tu devrais pas y avoir, ou ces sentiments, tu devrais les mettre à la porte, ton cerveau, il revient quand même à la charge. Avec ça, ça se passe, enfin. Et voilà, tu prends plus le temps de vivre l'instant présent correctement, et donc t'as plus de temps. Voilà, t'as plus de temps, t'as plus de temps à attendre. Donc c'est vraiment important quand tu fais autre chose, donc quand tu es sur on va dire, si toi tu apportes beaucoup d'importance au travail, et quand tu es au travail, t'as le droit d'importer, c'est pas mal, hein, d'y accorder de l'importance, Mais par contre, quand t'es avec quelqu'un d'autre, quand t'es avec tes amis, quand t'es avec tes machins, tu vis la chose à fond. Et encore un autre point, c'est aussi le lâcher prise dans le sens. En fait, la grande question, c'est genre, qu'est-ce qui te fait plaisir, toi? Qu'est-ce qui te fait plaisir à toi? Par exemple, moi j'avais ma copine, mais on voyait des amis, on sortait, enfin on voyait plein de choses, j'avais travaillé, je faisais plein de choses, mais pourtant je ne faisais rien pour moi. C'est-à-dire, par exemple, bah là, comme j'ai dit, ça fait longtemps que j'ai pas fait de podcast, que j'avais longtemps que j'ai pas pris du temps pour moi, mais là je me prends du temps pour moi. C'est-à-dire, je prends du temps où je ne fais rien. Je me coupe de toute la pression, pas d'internet, pas de téléphone, je suis pas joignable, et je fais des choses qui me plaisent. Je vais aller lire un livre, je vais me poser, je vais prendre un hamac, je vais le coller en forêt contre deux arbres, je vais me poser, je vais lire un livre, je vais me reposer, je vais aller marcher, je vais aller visiter le canyon. Enfin voilà, juste prendre du temps, mais vraiment faire les choses, prendre du temps pour toi, ralentir et laisser un petit peu toute cette pression extérieure. Tu prends une journée où tu vis sans cette pression. Donc tout ça, ça va un peu ensemble, hein. Savoir lâcher prise, revivre l'instant présent, enfin lâcher le contrôle, revivre l'instant présent, s'accorder de la décompression. Mais tout ça, c'est des choses que je ne faisais pas. Et pour moi, enfin ça paraît évident dit comme ça, mais ouais, une fois que t'es enfermé dans la boucle, tu commences à être dans la boucle, tu commences à y aller. Moi, je commence à rentrer vraiment dans la spirale et la roue, elle commençait à tourner du hamster. Et enfin voilà, je suis vraiment content d'avoir rencontré cette personne parce qu'elle m'a ouvert les yeux là-dessus. Et je me rends compte que bah moi la voiture, enfin le mur du burn-out, je le prenais mais à 200 km/h. Et bon bah voilà, il a mis des lunettes sur mes yeux et j'ai vu le mur. Et heureusement j'ai fait des, enfin maintenant j'accorde beaucoup d'importance à prendre du temps de break quoi et revivre. Voilà, revivre avec mes émotions, ces choses-là. Enfin voilà, je déborde un petit peu sur un plus grand sujet que j'aborderai une autre fois. En tout cas, il y avait plusieurs choses chez moi qui faisaient que je me dirigeais droit sur le burn-out. Et là, je suis vraiment content d'avoir réussi à l'anticiper. Et ne pas tomber trop. Alors j'espère quand je réécouterai ça plus tard, genre dans 20 ans, que j'aurai pas fait de burn-out et que je continuerai à avoir ce genre d'état d'esprit. J'espère le garder. Donc on va voir ça. C'est une belle expérience. Là je l'écris dans le marbre, donc ça va un peu m'obliger à le faire, j'espère. Voilà. Bon bah c'était le cinquième ou sixième, je sais même plus, l'épisode de Mocas. J'espère que vous l'aurez apprécié. Je vous souhaite une bonne écoute et à la prochaine. Bonne journée, ciao ciao.